Le journal de 8h. Bonjour Florence Cohen.
Bonjour Lionel, bonjour à tous. Le pass sanitaire entrera en vigueur dans une semaine exactement si le Conseil constitutionnel valide le texte adopté il y a 8 jours par le Parlement. Mais le QR code est déjà en place à titre expérimental sur la Côte Fleurie en Normandie et il n'est pas simple à mettre en œuvre, c'est Anne Théard.
Déjà plus d'une semaine que Scott Métainier a accroché cette ardoise sur la porte de sa brasserie.
Merci de préparer votre pass à présenter à votre serveur.
Pourtant, cela fait déjà quelques jours que ce gérant ne vérifie plus les passes sanitaires à l'entrée. La faute, d'après lui, à des consignes floues de la préfecture.
Au départ, on disait clairement que les gens ne pouvaient pas les recevoir si leur passe sanitaire n'était pas valide. Et après, au final, on a appris qu'on n'était pas obligé de refuser les gens. Au contraire, on n'avait même pas le droit de les refuser. En plus, les gens ne comprennent pas parce qu'ils viennent un jour, on les refuse. Le lendemain, on les prend au final, même si leur test n'est pas valide ou quoi que ce soit. Donc les gens n'y comprenaient plus rien comme nous. Quoi.
Une expérimentation qui coûte cher dans une saison déjà plombée par le Covid. À l'heure du coup de feu, la salle de restaurant est quasiment vide.
Clairement, on a eu un gros manque de clientèle suite à ça. On a une mauvaise météo, le Covid en plus de tout ça, clairement pour nous c'est catastrophique.
Pourtant, côté client, on sort son pass sanitaire de bonne grâce.
Mon pass qui est bien enveloppé dans une très belle pochette.
Comme Geneviève et Catherine qui sirotent leur cocktail.
Le pass est ma liberté.
Nous, on le fait surtout pour les autres, parce que moi personnellement ça me gonfle, mais bon, moi je le fais pour les autres.
Après cette expérimentation, le pass sanitaire devrait être demandé dans tous les bars et restaurants du pays à partir du 9 août.
Plus de 19 000 nouveaux cas de Covid hier, 300 hospitalisations en plus. Il y a aujourd'hui 7 500 patients à l'hôpital, dont 1100 en soins critiques. Et plus de 52% des Français ont reçu leurs 2 doses de vaccin. Et le débat sur la vaccination obligatoire refait surface.
Et on en parle avec notre invité. Bonjour Frédéric Valtoux.
Bonjour.
Vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France, c'est-à-dire que vous représentez les hôpitaux publics. Vous appelez à la vaccination obligatoire pour tous et non plus pour les seuls soignants. Est-ce que ça veut dire que le pass sanitaire ne suffit plus ?
J'appelle au moins à ce qu'on puisse ouvrir ce débat sereinement. On voit bien que le pass sanitaire, qui est une mesure qui était positive et bénéfique et qui a déjà produit des effets sur l'augmentation du nombre de vaccinés, est quand même compliqué, vous venez de le dire, à mettre en place. Et on sait qu'on a face à ce virus une arme absolue qui est le vaccin. Et qu'à partir de là, face à un système de santé qui depuis 18 mois est sous pression, avec un coût de santé publique pour l'ensemble de la population, et je pense notamment à tous ceux qui n'ont pas accès à l'hôpital du fait de la pression du Covid, il faut utiliser cette arme absolue. Et je pense que la vaccination obligatoire est un sujet dont il faut pouvoir débattre aujourd'hui.
Alors débattons-en, mais vous savez comme moi qu'il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont manifesté ce week-end contre le pass sanitaire. Du coup, est-ce que cette idée de vaccination obligatoire est audible ?
Mais ceux qui ont manifesté d'abord seront toujours moins nombreux que ceux qui se sont fait vacciner. Et vous connaissez les chiffres. Il y a une résistance de toute façon au vaccin dans notre pays. Elle n'est pas nouvelle. Elle se greffe avec aussi un certain nombre d'autres revendications et tout ça se mêle dans une contestation du gouvernement. Mais derrière cela, il faut reposer le sujet en termes de santé publique et de capacité pour notre système de santé à faire face. Je pense que vous allez voir que dans les prochaines semaines, dans tous les pays, le débat sur la vaccination obligatoire va monter. Il commence à monter aux États-Unis, il commence à être évoqué dans d'autres pays. Les autorités médicales, la Haute Autorité de Santé, l'Académie de médecine, celle de pharmacie, ont posé la question début juillet.
Donc le débat avance, en quelque sorte. Vous
pensez le débat avance.
L'idée avance.
Et on voit bien que c'est une solution qui nous permettrait sans doute de tourner la page de cette épidémie.
En un mot, Frédéric Valtoux, s'il vous plaît, le fait d'appliquer l'obligation de vaccination pour tous, est-ce que ça rendrait aussi la chose plus acceptable pour certains des soignants qui sont encore réticents ?
Le sujet n'est pas là. Les soignants sont en train de se faire vacciner et vous verrez qu'au 15 septembre, ça sera une infime minorité de soignants qui peut-être auront fait le choix de quitter la profession. Et quand je dis une infime minorité, par rapport ne serait-ce qu'aux millions de personnes qui travaillent à l'hôpital, vous verrez qu'ils seront très 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 minoritaires. Mais c'est pas le sujet de rendre la mesure plus acceptable pour les soignants de faire vacciner toute la population française.
C'est vraiment une question d'immunité. Voilà, c'est ça.
Oui, c'est une question d'immunité collective, de rapidité avec laquelle on a cette immunité collective. et puis la volonté qu'on a tous de tourner la page de cette épidémie.
Merci infiniment Frédéric Valletoux. Je rappelle que vous êtes le président de la Fédération hospitalière de France. Merci d'avoir été en direct avec nous ce matin sur Europe 1.
On fait un petit créneau par les JO de Tokyo avec la bonne nouvelle de ce matin. C'est une médaille d'or française en tir sur laquelle on reviendra dans quelques minutes avec Corinne Boulou déjà en studio. C'est une journée importante pour les 270 salariés de l'acierie Ascoval. Le tribunal de commerce de Paris doit se prononcer cet après-midi sur la reprise des deux sites français dans le Nord et en Moselle, Yasmine Akatou.
Pour les représentants des salariés, il n'y aura pas de surprise cet après-midi au tribunal de commerce de Paris. L'offre faite par l'allemand Sarchtal devrait être validée. Le groupe sidérurgique allemand a confirmé vendredi avoir conclu un accord de principe pour le rachat des deux sites français. D'abord celui d'Ascoval, 270 salariés qui produisent des barres d'acier. Le deuxième site, celui d'Ayange, 430 salariés qui fabriquent des rails en acier. Cette reprise serait une excellente nouvelle, estime Nassim Bardi, salarié et délégué syndical CGT.
Nous pensons qu'on est retombé sur le bon repreneur. Ils ont un projet, on va dire, industriel très cohérent avec, on va dire, la production d'acier propre. Surtout maintenant, on sait que Sarchtal travaille beaucoup avec les entreprises automobiles allemandes et ses clients allemands réclameront à moyen terme des produits sidérurgiques issus de la filière électrique. Donc c'est une très bonne nouvelle, je pense, pour nous tous, pour nous et pour les Allemands aussi.
Un rachat qui, s'il est validé cet après-midi, pourrait être effectif dans une quinzaine de jours.
L'AMIVILUDE, c'est la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires. Elle vient de publier son rapport annuel et en 6 ans, le nombre de signalements a grimpé de 40%.
Bonjour Marion Dubreuil.
Bonjour.
Avec une part prépondérante pour la santé alternative. Hein.
Oui, c'est simple. En 5 ans, le nombre de signalements liés aux médecines complémentaires et alternatives a doublé pour atteindre 412 saisines l'an dernier. C'est d'ailleurs le premier sujet pour lequel la Mivilude est sollicitée. A contrario, l'église de Scientologie est en recul. Depuis 2015, les signalements auprès de la Mivilude ont été divisés par 10.
Marion, quelle est la particularité de ces mouvements sectaires ?
Eh bien, ils sont structurés autour de 3 idées fortes. Dire que l'approche de la médecine scientifique ne prend pas en compte l'être humain dans toute sa dimension. Affirmer que la santé publique est aux mains de lobbies pharmaceutiques. Et enfin, prétendre que toutes les solutions sont dans la nature ou en soi. Le jeûne et le fait de manger cru sont par exemple promus par Thierry Casasnovas auprès de ses millions d'abonnés. Ce vidéaste sans formation médicale n'hésite pas à déclarer par ailleurs que la chimiothérapie est toxique et inefficace pour lutter contre le cancer.
Et alors, est-ce que la crise du Covid a eu un effet ?
Oui, un effet notable. À partir du premier confinement, entre mars et décembre l'an dernier, il y a eu 200 saisines en lien direct avec le Covid-19. Les gourous ont presque tous un positionnement sur la crise sanitaire, contre le port du masque, contre la vaccination, et ils adaptent leur discours et leur technique d'approche. Face à eux, il y a un public plus isolé, plus vulnérable et donc plus perméable aux arguments de nature sectaire. Les mouvements religieux, eux, ont profité du Covid pour développer le thème de la punition divine.
Et dans ce contexte, il n'y a même plus besoin d'organiser des rencontres, Marion, ces gourous sont devenus de véritables experts en marketing digital. Hein.
Exactement, l'offre s'est multipliée en ligne, salons, blogs, forums de discussion. On peut parler de gourou 2.0, pas de notoriété sans présence sur Instagram et Facebook, nous explique le rapport de la Mivilude. C'est le cas des petits groupes. Les gourous d'envergure internationale, eux, privilégient la rareté. Ils délèguent la communication à des lieutenants sur les réseaux sociaux. Tout est maîtrisé, le référencement, les mots-clés pour optimiser l'effet des moteurs de recherche. Les tests de personnalité proposés à l'internaute permettent également de recueillir ces données personnel pour le relancer et en faire ensuite un adepte. Enfin, les prestations, consultations ou soins sont proposées à distance et facilitées grâce au paiement en ligne.
Le dossier de Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe.
De nouvelles mesures pour tenter de lutter contre les violences conjugales. Les plaintes devront être traitées en priorité dans les commissariats, annonce du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
Aux Jeux Olympiques de Tokyo, les handballeuses françaises sont qualifiées pour les quarts de finale après leur victoire sur le Brésil.
Oui, et la bonne nouvelle de ce matin, c'est donc, on le disait, cette médaille d'or en tir, Corinne Boulou.
La 6e pour le contingent français à Tokyo, 22e médaille au total, et donc Jean-Ky Campois, vice-champion olympique à Rio, qui 5 ans après, obtient le plus précieux métal. Il repart avec de l'or après une compétition, une finale très maîtrisée en tir. Il devance un Cubain et un Chinois. Il a éliminé tous ses concurrents, encore une fois avec une belle maîtrise. Il a été très solide, Jean-Ki Campois, pour aller chercher cette médaille d'or. Il avait quasiment tout gagné hein, des dernières compétitions qu'il avait pu disputer. Je dis pu disputer parce que avec les conditions sanitaires et les restrictions sanitaires, il y avait eu peu de compétitions en tir. Et là, eh bien, il est champion olympique du tir à 25 mètres. Bravo à Jean-Ki Campois, qui accède à la plus haute marche du podium après avoir remporté déjà une médaille olympique à 25 ans. Aujourd'hui, il avait donc remporté déjà une médaille olympique à Rio il y a 5 ans.
Merci à vous Corinne Boulot. Et deux derniers mots de sport, la victoire de Lille dans le trophée des champions de football 1-0 sur le PSG et Esteban Ocon qui remporte sur l'écurie alpine le Grand Prix de Formule 1 de Hongrie.
Merci Florence Cohen, c'était le journal. Il est 8h et presque 12 minutes sur Europe.